Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité.
Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités
et on se fait aller Mâche Patate!
Bonjour, bienvenue au Mâche Patate, le podcast des urbains culteurs. Nous sommes vos co-animatrices Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques.
Bonjour!
Alors, dans les derniers épisodes, on a eu la chance de s'entretenir avec des gens plus intéressants les uns que les autres. Et puis aujourd'hui, on va vous présenter une entreprise d'ici, de Québec, qui cultive et qui prend soin du territoire, d'un territoire qui était d'abord rural puis qui est devenu urbain au fil des années, et ce, depuis 77 ans. Je parle de la ferme Bédard et Blouin, une ferme familiale installée à Beauport depuis 1941, sur le boulevard Louis XIV, feu boulevard Rochette, si vous êtes du coin, si vous avez grandi dans le coin, et qui est géré depuis 1990 par Denis Bédard, qui est le fils du premier propriétaire, et sa conjointe Raymonde Blouin, auxquels se sont joints plus tard leurs enfants Sarah et Nicolas.
Oui, dans le nord de Beauport, la ferme Bédard-Blouin, c'est une institution, c'est le centre jardin du coin, mais c'est aussi un espace agricole qu'on traverse quand on va de Beauport à Charlebourg ou de Charlebourg à Beauport, puis c'est une importante partie là, du côté nord du boulevard Louis XIV de cet espace agricole qui se trouve tranquillement enclavé dans l'urbanité. Aujourd'hui, on rencontre Sarah Bédard, qui est agricultrice de troisième génération, on peut dire.
Oui, ça, salut Sarah.
Et je vais lire son titre, car il est long. Donc, oui, elle est responsable des communications, du service client, des achats et de la gestion des employés. Alors, bienvenue au Mâche Patate.
Merci.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'histoire de votre ferme, quand même 77 ans?
Oui, tout à fait. En fait, comme vous l'avez mentionné, ça a commencé avec mon grand-père qui faisait essentiellement du maraîchage. Donc, des légumes, il vendait au marché et tout ça. Donc, mon père, évidemment, a grandi sur la ferme avec ses frères et sœurs. Ils sont 5 dans la famille. Et puis, mon père a fait son cours en foresterie. Ça, comme c'était dans le temps, c'était plus les aînés qui devaient reprendre les familles. Et puis, finalement, c'était le bébé qui a été intéressé par la ferme. Et ça a été un long processus. Mais finalement, mon grand-père a fini par accepter que c'était son bébé qui voulait la ferme et il lui a légué.
donc il résistait à...
Ouais, ben c'était traditionnel hein, dans ce temps-là, donc il a fallu qu'il fasse sa place, ouais.
C'est ça, l'aîné c'était un curé ou bien l'héritier.
C'est ça exactement. Fait que donc mon père a repris l'entreprise, il a rencontré ma mère, ils ont fondé une famille et bien vite se sont rendu compte qu'il y aurait de la misère à faire vivre sa famille à vendre des fruits et légumes. Il y avait un petit kiosque sur le bord du boulevard. Et puis, mon père a toujours été visionnaire. Il a vu que les maisons se construisaient de plus en plus dans les alentours et que les gens commençaient à mettre des fleurs. Alors, il a dit à ma mère, on va commencer à vendre des fleurs. Je pense que c'est une bonne idée. Ma mère était fonctionnaire à cette période-là.
Okay, elle venait pas d'une famille d'agriculteurs.
Non, pas du tout. Une famille d'entrepreneurs, mais pas d'agriculteurs. Mais elle était fonctionnaire. Et puis, elle a dit, je connais absolument rien à ça, moi, les fleurs. Comment tu veux que je fasse ça? Ben, va t'acheter des livres. On va apprendre comment ça se fait. Donc, ils ont commencé par acheter et revendre. Ensuite, ils ont commencé à les produire tranquillement, pas vite, à apprendre comment on produit les fleurs. Et de fil en aiguille, ma mère, l'entreprise prenait de l'expansion. Elle a fini par laisser son entreprise, pas son entreprise, mais son emploi de fonctionnaire pour joindre mon père. Donc, on était du côté sud du boulevard et là, un jour, il a fallu agrandir. Donc, on est allé sur les terres agricoles qui étaient de l'autre côté. Il y a même été un bout de temps où, on transportait les fleurs en tracteur du sud vers le nord parce qu'on les produisait au sud puis on les vendait en face. Fait qu'il fallait les transporter en tracteur. Puis ensuite, je me rappelle pas exactement à quelle année, par exemple, là, mais probablement fin 90, là, les serres du côté nord se sont agrandies là, une à une. Là. À chaque année, on en rajoutait une et deux et puis là, on est rendu à 12, là.
Fait que toi, t'es née dans les serres de fleurs.
Oui, exactement. Exactement. Pour faire une histoire courte, oui. Je suis née là-dedans, ouais.
Puis là, ton frère et toi, êtes-vous plus
nombreux? On est trois enfants, puis c'est mon plus jeune frère et moi qui est au milieu qui reprenons l'entreprise.
Fait que vous, la tradition, c'est vraiment que c'est les plus jeunes de la famille qui reprennent les entreprises.
Exactement. J'avais pas vu ça comme ça, mais oui, tout à
fait. Je sais pas si t'as des enfants, si le plus jeune a l'air intéressé, parce que là, ça devient sérieux.
Ils sont encore jeunes, 4 ans, 2 ans, 1 an. On va leur laisser une couple d'années, là.
Après celui d'un an, là.
Ouais, potentiellement.
Sur lui. OK, c'est bon.
Ouais. Mais on craint pas, en même temps, on les amène tellement à la ferme que c'est tellement un bel environnement je veux dire, on peut pas cracher en l'air, mais tu sais, ça favorise quand même la possibilité qu'un jour il veuille
transmettre le feu puis tout ça, clairement. Étant donné aussi l'endroit où vous vous trouvez dans la ville, bon, c'est ça, vous êtes de plus en plus entouré par la ville en tant que telle, justement, c'était probablement beaucoup plus campagnard quand ton grand-père s'est installé là. Oui. On voit que dans votre énoncé de mission, vous avez entre autres de protéger le patrimoine agricole. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de qu'est-ce que vous faites, en plus de résister en cultivant là, carrément? Là?
Oui. C'est sûr que le débat a un peu plus commencé avec la vente des terres à Monsieur Dallaire, mais bien avant ça, depuis que je suis toute jeune, mon père, qui encore une fois a toujours été très visionnaire, voyait bien les choses venir. Autant c'est agréable pour lui parce qu'il a profité des bonnes années où il y avait beaucoup de construction, beaucoup de développement, que les gens refaisaient leur terrassement et tout ça, mais autant il voyait qu'à un moment donné, ça allait potentiellement lui nuire parce que les maisons se construisaient tout autour. Puis il nous a toujours dit, depuis que je suis jeune, un jour, les enfants, il va falloir résister à la pression démographique. Puis ça, quand t'es jeune, ça veut pas dire grand-chose.
Ouais, c'est clairement abstrait.
C'est ça, mais ça a pas été trop long que ça a pris, ça a fait du sens dans notre tête, puis on a compris ce qu'il voulait dire quand il voulait acheter des terres à droite et à gauche, puis quand il voulait rester vivant dans son entreprise, être bien impliqué dans le milieu pour que, veut pas attirer un certain capital de sympathie pour que les gens lèvent le flambeau quand, si jamais il nous arrivait quelque chose, qu'on ait tellement été impliqué dans notre milieu que les gens laissent pas se passer si jamais on devait être, je sais pas, là, qu'est-ce qui pourrait arriver, exproprié, surtaxé, ou je sais pas, là, mais qui ferait quelque chose qui pourrait nuire, finalement, aux activités de l'entreprise. Mon père, c'est ça, il a toujours, d'abord, on a une très grande terre forestière qui est plus grande que la terre agricole.
Ouais.
Il a toujours aménagé, puis lui, ça a toujours été pour les générations futures de garder une belle forêt saine. D'abord, c'est la forêt qui l'animait beaucoup.
Oui, c'est
là.
Sa formation de
exactement.
Base.
Exactement, ouais. Donc, il a toujours entretenu sa forêt et puis les terres agricoles, toujours les garder saines aussi, garder un beau paysage. Pour lui, ça a une très grande valeur pour les gens, pour le bien-être des gens, que toutes les milliers de personnes qui passent par là tous les jours aient un bout de paysage agricole qui est bien entretenu, avec des belles couleurs, puis ça a toujours fait
partie
de...
Ça fait du bien quand on passe par là. Moi, j'ai grandi dans le nord de Beauport, là. Je passais couramment par là, puis tu sais, c'est le fun de voir du paysage, on voit loin, c'est la nature, ça fait vraiment du bien. Je comprends que la valeur du paysage, là,
Il l'avait compris, visiblement, là, donc ça a toujours été dans ses... dans ses valeurs, puis dans ses priorités, là, de faire face à l'étalement urbain. Et puis, les différentes manières d'y résister, je l'ai mentionné un peu, mais d'abord, on a acheté toutes les terres autour de nous qu'on pouvait acquérir pour être de plus en plus gros, parce qu'il nous disait, si on reste petit, à un moment donné, on va juste être entouré, puis ça va être... on n'aura pas le choix de peut-être de vendre ou quoi que ce soit. Donc, on a quand même... agrandi la superficie là, des terres agricoles passablement là, depuis en fait ça l'a doublé en 2008. On a acheté quand même une partie des terres des sœurs SMA et puis mon père est très impliqué aussi au niveau justement du débat de la terre des sœurs là.
Oui, il avait écrit une lettre ouverte qui avait beaucoup roulé. Peux-tu nous en parler plus de cet épisode là?
Ils ont commencé à parler de ce sujet là, c'est sûr que c'est venu le piquer droit au cœur c'est pas ses terres à lui directement, mais c'est pas juste ses terres à lui qui le préoccupe, c'est les terres agricoles en milieu urbain et partout en fait là, mais davantage en milieu urbain parce qu'on voit justement les bienfaits que ça peut apporter à la population. Donc c'est ça, quand il a vu que ça se parlait, ça l'avait tellement... Puis mon père, pas nécessairement une personne spontanée, une personne très réfléchie, donc il a préféré le mettre par écrit justement pour que ça sorte bien finalement. Puis aux dernières nouvelles, là, ça avait été lu à plus de 40 000 fois là, finalement, là, puis probablement même plus à ce jour. Là. Donc oui, c'est ça. En fait, il dénonçait tout simplement cette situation là, qui était des terres arables, des millions d'années, là, des terres d'une qualité absolument exceptionnelle. Et puis plein de choses qu'on pourrait faire ou à tout de moins, il faudrait premièrement se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire avec des belles terres comme ça avant de se dire que la première solution, c'est de mettre des maisons dessus. Là. Donc, son but, c'était vraiment de soulever le point, de faire réagir, que les gens réagissent à ça finalement, puis ça a eu un effet assez instantané. Là, on a reçu plusieurs courriels, même des appels pour nous féliciter puis nous remercier de prendre place dans ce débat-là. Et puis, ben, par la suite, il s'est créé un comité avec l'UPA justement pour voir comment on pouvait faire pour résister à ça, pour essayer que... Parce que tout n'est pas joué encore.
Non,
là,
c'est ça, le débat est encore...
Est encore bien vivant, là. Ouais. Puis c'est entre autres parce que des gens se mobilisent. Dans le fond, c'est sûr que si on dit rien, jamais les choses vont se faire. Mais quand on lève la main puis qu'on se rend compte qu'il y a d'autres gens autour de nous qui auraient peut-être pas levé la main, mais comme il y a quelqu'un qui prend le lead, là, comme on dit, ouais. Ben ils ont le goût de le suivre. Puis c'est créé plusieurs associations citoyennes aussi qui font... vraiment un travail merveilleux pour ceux aussi. Mon père est dans ces comités-là, encore avec l'UPA, puis comme je disais, les bons reportages la semaine verte là, sur ouais. ce sujet-là. Sont venus nous interviewer à ce sujet-là aussi. Donc, voilà, je pense ouais. que ça...
Ben, tu sais, je pense que le fait, comme tu soulignais, que ton père a toujours eu un grand souci de conserver le paysage, d'avoir des pratiques qui rendent la présence agricole en milieu urbain... une chose souhaitable, jolie, enviable, ben oui. ça fait partie, tu sais, de vous avez cultivé l'amour des gens là oui. finalement pour cette zone là du territoire.
Ça a clairement marché parce que c'est un beau succès là, votre entreprise là, les gens vous aiment.
Oui.
Hein,
ben oui, les gens vous aiment, mais justement,
c'est toujours ça. Plein.
Là, oui, non, mais... ça va bien honnêtement, on peut absolument pas se plaindre, mais tu sais on le fait pour nous, on le fait pour eux, on le fait pour tout le monde, on le fait pour le bien-être collectif. En même mm-hmm. temps, nous on est tellement conscients encore plus à ce jour de l'importance que ces terres-là ont à Beauport et de la mmh. chance qu'on a encore de les avoir parce que il y en a plus des agriculteurs à Beauport. Mmh. Je suis pas tellement vieille, mais je me rappelle que j'en avais tout autour de moi des terres agricoles, là, puis ça fait pas longtemps. Là, on parle pas d'une histoire de 100 ans, là, mmh. même pas 1000 ans. Là. Donc, on réalise la chance qu'on a d'avoir ça. Puis en même temps, ben, on veut pas le garder juste pour nous non plus, puisqu'on pourrait bien le garder jalousement puis pas en faire profiter à personne. Mais c'est pour ça que découle aussi notre mission, l'aspect éducatif, l'aspect sensibilisation aux gens. Tant qu'à l'avoir, le terrain de jeu à côté, ben on va essayer de sensibiliser les gens. Les gens sont déjà tellement déconnectés aujourd'hui, ils savent plus comment les légumes poussent, dans quelle saison ils poussent. Donc on essaye de faire un travail pour ça, pour essayer de les remettre un peu... Avant, tout le monde venait d'une ferme, hein? Tout le monde savait ouais. comment les choses se passaient. Aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça, là, vous le savez bien.
Ouais. On le sait. Mais justement, parce que là, on est resté, quand on parlait de l'histoire de la ferme, au moment où ton père a eu la vision commerciale, là, au fond, qu'est-ce qui s'en vient, c'est les fleurs, puis tu sais, ça a super bien marché, mais il y a quand même eu un autre tournant qui a été pris par les fermes Bédard-Blouin. Ça a été, à ma connaissance, un des premiers centres jardins qui s'est vraiment identifié au mouvement de l'agriculture urbaine. C'est une des raisons pour lesquelles on vous invite au micro du Manche Patate oui. aujourd'hui. Fait qu'est-ce que tu peux nous parler de comment ça s'est fait, cette réorientation-là aussi vers ce nouveau marché qui émerge, ben qui émergeait maintenant, je pense qu'il est présent, là.
En fait, il y a deux choses. Il y a, d'un, nous pratiquons nous-mêmes l'agriculture urbaine dans son sens propre. Ouais. dans un caractère commercial, mais mm-hmm. quand même, parce qu'on fait de l'agriculture en milieu urbain.
Carrément.
Donc, si on le prend de ce côté-là, là, on le pratique nous-mêmes.
Juste pour les auditeurs qui sont pas familiers avec le secteur, là, je vous recommande vraiment d'aller sur Google Maps, rechercher où est la ferme Bédard-Blouin. Vous allez voir qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une enclave agricole dans un territoire urbain, là. Une image vaut mille mots, là.
Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Surtout d'une vue aérienne. Donc, et dans un deuxième temps, ben, comme l'aspect du centre jardin est quand même maintenant notre gagne-pain principal et qu'on veut rester à l'affût des tendances aussi, on voyait qu'il y avait une demande grandissante pour tout ce qui était plantes potagères et fines herbes. Comme on est producteur, ben, c'était facile pour nous aussi d'élargir notre offre de produits ben oui. dans ce sens-là. Puis quand on a vu que la tendance était vraiment que les gens voulaient recommencer à faire des potagers, quand on a vu que les petites familles aussi arrivaient au centre jardin puis que il y avait délaissé un peu le jardinage parce par manque de temps et tout ça, mais que là le potager ça les accrochait parce qu'ils voyaient plus comme une activité et tout ça, ben on a sauté là-dessus, oui et non, dans le sens que c'était une suite logique de notre parcours, de notre identité, même que vu qu'on le pratique nous-mêmes. Et puis ouais, je dirais que on a trouvé ça très très important aussi d'amener le fait de se faire un potager, de cultiver ses légumes pour que ça soit le fun. Parce que on regarde là, on se dit bon, les générations, comment on va faire pour intéresser les futurs clients à continuer à jardiner? Autrefois nos parents mettaient beaucoup de fleurs annuelles. Bon là c'est un secteur qui est un peu en décroissance, puis ouais. En tant qu'entreprise, il faut rester quand même à l'affût de ce que les consommateurs veulent. Et puis quand on a vu qu'ils étaient intéressés par ça, on voulait pas les décourager non plus, parce que on essaie de rendre ça accessible et facile. C'est facile en jardinage de se tromper une fois, de dire « Ah, je suis pas bonne, j'ai pas le pouce vert, c'est fini. » Bon, donc, tu sais, le mot a été passé vraiment au conseiller pour essayer de ramener ça vraiment à la base, que les gens s'amusent, qu'ils aient du plaisir à se mettre les mains dans la terre, à découvrir des nouvelles variétés qui sortent de la carotte, du brocoli, puis des patates. Les patates, hein, y a des patates bleues, il y a des patates rates, les tomates, on en fait 40 sortes. Tu sais, vraiment d'éclater l'offre pour que ça soit le fun, puis qu'il y ait des couleurs, puis des saveurs différentes de ce qu'on trouve à l'épicerie, en fait.
Attends, est-ce que tu viens de dire qu'il y a 40 cultivaires de tomates différents disponibles au printemps en ferme?
Oui,
bon, ben ceux qui ont écouté le podcast sur la tomate avec Lily Michaud, qui disait que souvent dans les centres jardins, les choix étaient limités, vous savez où aller ce printemps.
Clairement,
ouais. Ouais, non, c'est, on en a fait, c'est la reine un peu du potager, ouais. Puis je me fais un malin plaisir, moi, l'hiver, à fouiller sur les forums, les gens, qu'est-ce qu'ils ont essayé, es-tu bonne, des tomates à travers le monde, puis t'sais, même si c'est des variétés qui sont soit ancestrales ou assez marginales à trouver, on n'en fait pas des tonnes de copies. On peut faire des fois 50, 75, si c'est artisanal en même temps.
Ouais.
C'est pas nécessairement toujours ce qu'il y a de plus rentable si on parle au niveau commercial, mais c'est tellement important pour nous, puis c'est une passion en fait. T'sais, fait que des choses qu'on fait comme ça, que on le fait par passion, puis pour le faire découvrir aux gens aussi. Les tomates, mais c'est ça, tous les fruits et légumes, là. Maintenant, beaucoup les fruits, là, on voit que c'est la suite du potager, des légumes, là. Les fruits prennent beaucoup plus de place aussi qu'avant. Là,
c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler d'arbustes fruitiers, tout ça. Puis est-ce que ça représente comme est-ce que ça continue à croître, en fait, l'intérêt pour le potager, ou ça s'est comme stabilisé? Puis
c'est la croissance est moins rapide que, disons, les 5 dernières années, mais il y a encore une croissance. Mm-hmm. Ouais.
Puis est-ce que tu sais à peu près, par rapport comme aux plantes annuelles vivaces, tu sais, est-ce que c'est une part importante vraiment de vos ventes?
Ben nous, c'est sûr que les fleurs annuelles, c'est encore le gros là, de notre spécialité. Par contre, les fleurs annuelles, dépendant beaucoup de la météo que nous avons, sont soit stables ou soit en croissance. Donc, on n'a pas de baisse, okay. Mais c'est pas le secteur le plus porteur pour l'instant. Mm-hmm. Je parle porteur dans le sens que qui est pas en croissance fulgurante, là. Mais en même temps, c'est bien de pas avoir tous ses œufs dans le même panier non mm-hmm. plus, puis d'être bien équilibré dans l'offre de produits qu'on a. Mais c'est sûr que tout ce qui est potager, fines herbes, a pris plus de place dans nos serres de production qu'il y a 5 ans, là, par exemple. Là. Ouais. Okay.
Ben, on est ravis.
Ben oui.
Ben oui, nous aussi. Ben, dans le fond, on aime ça, puis on veut vendre ce que les gens aiment aussi, là. C'est ça le but, ultimement.
Puis ça rejoint le fait que vous produisez effectivement vous-même de la nourriture, finalement. Oui. Puis on peut, entre autres, pour les auditeurs qui le savent pas, aller faire de l'autocueillette à la ferme Bédard-Boulouin, des petits fruits, puis des courges, beaucoup, oui. Entre autres. Est-ce que, je sais aussi que vous faites attention à vos pratique culturelle, ça va dans la lignée de la protection du patrimoine, pardon, mais du territoire agricole. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus des pratiques comme pour l'environnement là que vous avez mis de l'avant, que vous appliquez?
Oui. Ben au niveau des serres, en fait, on fait la lutte intégrée là. Donc pour expliquer un peu la lutte intégrée, c'est qu'on utilise des insectes prédateurs qui vont je vais essayer de trouver un terme autre que ils vont parasiter les insectes qui sont nuisibles, donc disons-le comme ça. Donc ce qui fait que avant qu'on ait des plantes de l'extérieur, parce qu'on achète un peu de plantes de vivacées tout ça, mais avant qu'on ait des plantes de l'extérieur dans notre milieu fermé de serre, on n'a pratiquement pas d'utilisation là, de pesticides, d'insecticides à faire là, parce qu'on contrôle bien notre milieu, on met beaucoup de sous sur le dépistage. On a des stagiaires de l'Université Laval qui viennent, donc on fait beaucoup là de dépistage dans un premier temps, puis l'utilisation des prédateurs, ben ça c'est un autre moyen. Donc ça c'est pour les serres. Ensuite on a changé notre système de chauffage là, il y a plusieurs années. Encore une fois, mon père qui a vu les choses venir et puis qui voyait bien que le mazout c'était très c'était porté à fluctuer énormément et que c'était pas nécessairement une énergie très propre. Il a vu, il a fait ses recherches, voir, puis il y avait des subventions à ce moment-là pour un système de chauffage à la biomasse. Donc c'est des granules de bois. Okay. Donc on est encore avec ce type de.
Ça c'est les serres qui sont chauffées comme
le
ça.
Le serre, ouais, tout okay. à fait, ouais, avec des granules de bois qui sont. Compressé en petites granules. Et puis ensuite on utilise aussi des écrans thermiques, donc ça fait des économies de chauffage aussi. C'est comme une espèce de rideau qui vient se fermer pour pas que la chaleur monte dans les dômes. Okay. Donc le soir on peut fermer les rideaux pour éviter que la chaleur, parce qu'on sait que la chaleur monte, et dans une serre avec le dôme en haut, cette partie-là n'a pas besoin d'être chauffée, donc il y a cette ça okay. fait des bonnes économies de chauffage aussi. Bon là il y a tout ce qui a trait à l'eau. On utilise des tables inondantes, pas des tables inondantes, des tables capillaires, pardon. On se fait des réservoirs.
Est-ce que tu peux expliquer, c'est quoi une table capillaire? Je ne crois
table
pas avoir entendu
capillaire,
ça.
Ouais,
j'imagine pas... quelque chose dans ma tête.
Oui, mais... en fait, c'est une table avec des petits tuyaux suintants, finalement, là, qui passent le long de la table avec un tapis, un genre de géotextile qui est par-dessus. Et puis, ça fait que l'eau reste davantage sur la table que sur une table de bois où l'eau s'évapore. En moins de deux, là, une fois.
Est-ce que les plantes sont comme irriguées par en dessous puis ça monte par capillarité dans le...
Les deux peuvent se faire. Okay. On doit arroser souvent quand même par-dessus, mais ça fait que l'eau reste plus par en dessous, s'il reste humide plus longtemps. Oui, c'est ça,
conservé sur la table au lieu de couler par terre.
Exactement, couler par terre et aussi s'évapore beaucoup moins rapidement. D'accord. Donc ça, c'est sûr que ça donne un coup de pouce. Et puis, nous, on a des réservoirs, on s'est créé des... on a creusé des petits lacs pour si par exemple durant le comme cet été par exemple on a eu une grosse sécheresse. Ouais. Donc on a notre propre système d'irrigation, au lieu de prendre de l'eau de la ville, ben on peut prendre l'eau de nos des super, petits lacs là, ça, qu'on a creusé. En même temps après ça dans les champs, ben au niveau des serres, ça c'est de notre pratique à nous. Donc, les conseillers ont tous le mot d'ordre pour favoriser des pratiques, pour inciter les gens à avoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, c'est sûr qu'on voit que les gens sont un peu soit méconnaissants ou intolérants face aux insectes qu'ils trouvent soit dans leur potager ou dans leurs plantes ornementales ou peu importe. Donc, les conseillers, d'abord, on n'a aucun produit fort. On veut même pas avoir cette classe de permis-là. On n'a tout simplement pas les produits. Les produits qu'on a sont respectueux de l'environnement. Et même avant de les vendre, on renseigne comme il faut la personne pour voir ce que c'est vraiment nécessaire de traiter. Il y a un seuil de tolérance qu'on doit quand même conserver. Ensuite, il y a des insectes bénéfiques. On apprend aussi, les gens, les fourmis, je sais pas pourquoi, là, mais ils aiment pas bien ça. Clair, les fourmis, les perce-oreilles, mais tu sais, dès qu'on leur dit qu'ils ont tous leur rôle à jouer, bon, il y en a qui a rien à faire, puis il y en a quand même qui ont l'ouverture de dire ah bon ben ok c'est correct, je les avais pas, c'est parfait, je vais les tolérer.
Moi je trouve ça génial que vos conseillers soient formés à aborder les choses dans cette optique là parce que au fond ultimement les conseillers c'est les gens de première ligne.
Ben oui, tout à fait.
C'est eux qui mettent les produits dans les mains des gens pratiquement là. Tu sais, si un conseiller il aime pas un produit, il poussera pas à la vente de ce produit là. Tu sais, fait que c'est vraiment de la sensibilisation de premier plan finalement. Là, c'est du 1 à un, tu sais. Oui,
tout à fait.
C'est vraiment
c'est
super.
Des conseillers, professeurs, éducateurs en
oui,
même
c'est
temps.
Ça. C'est pas juste de la vente, rendu
là. Ah oui,
là,
ben
là.
Oui, parce que, ben, nous, on les appelle carrément ça fait partie de la culture d'entreprise. C'est pas des vendeurs, c'est des conseillers.
Ouais. Mm-hmm.
Conseillers vendeurs, ultimement, c'est sûr, mais, tu sais, à la base, nous, on s'appelle des conseillers. Parce mm-hmm. qu'on conseille les gens. On essaye de leur en apprendre le plus possible, de partager notre passion. Puis aussi, justement, de leur faire avoir une plus grande tolérance sur bien des choses de la nature qu'on est tellement déconnecté qu'on se rend plus compte du, tu sais, c'est pas tellement compliqué. Au fond, quand on respecte le cycle de la nature, on est récompensé. Au bout du compte, on a beaucoup moins d'efforts à faire.
Ben
mais c'est
oui,
sûr
ben
que
oui.
Dès qu'on intervient, ben, ça vient briser une chaîne qui fonctionnait déjà très bien. Puis là, ben, on intervient là, mais après ça, ça va créer une autre intervention potentielle sur d'autres choses. Bref, on n'a pas tout le temps non plus de passer une heure avec chaque client, bien entendu, mais ils sont quand même bien briefés là-dessus. Et puis, même les enfants, là, l'année prochaine, à la porte ouverte, on va avoir un atelier sur les insectes bénéfiques pour essayer
wow.
de leur en montrer aussi.
Cool.
Pour qu'ils les tolèrent simplement au jardin, puis qu'ils trouvent ça le fun de les avoir, puis au lieu de les écraser, qu'ils les... ben, c'est vrai, tu sais, ben, percerait, nous autres, quand on en trouve un dans la maison, on le prend, puis on le sort. Ils sont pas toujours... des fois, ils sont un peu tannants, mais ultimement, ils ont leur bon côté quand même.
Au niveau des pratiques en champ, qu'est-ce que vous faites?
Les pratiques en champ, mon frère récemment a instauré des bandes florales,
ouais,
entre
ah,
autres, donc pour favoriser, c'est sûr, les insectes pollinisateurs, une autre chose qu'on a faite aussi, c'est qu'on a, depuis quelques années, quand on a entendu parler de l'asclépiade, encore là, c'est quelque chose qu'on n'était pas au courant, mais bon, par les David Suzuki de ce monde et autres, on en a fini par en entendre parler, puis c'est très bien comme ça, donc nous, avant, on faisait comme tout le monde, on les arrachait. C'est une mauvaise herbe pour nous dans les champs
ouais.
quand on passe pour le désherbage. Mais depuis quelques années, là, on les laisse, puis on doit reconnaître qu'on en voit quand même passablement là, des monarques. Là. On a la chance de les voir. Donc,
rappel pour les auditeurs, l'asclépiade, c'est comme la plante, la fleur dont les monarques préfèrent se nourrir, et les chenilles, je crois,
se nourrissent de différentes espèces, mais leurs chenilles doivent mm-hmm. essentiellement là, se nourrir des feuilles d'asclépiade. Fait que
voilà.
Sans asclépiade, pas de chenilles.
Pas de monarque.
Pas de chenilles, pas de monarque.
Exactement. Ainsi va la vie, c'est ça. Donc, l'asclépiade, les bandes florales, on a un apiculteur également qui vient porter des ruches à la ferme. C'est un peu donnant-donnant. Lui, c'était comme un projet qu'il voulait développer. Puis pour nous, c'était l'idéal, là, parce que lui, en même temps, aller porter des ruches, des terres agricoles en ville, il y en a pas des tonnes. Puis nous, c'est sûr que c'est un gros plus là, pour la production des fruits, des légumes. Ensuite, on fait partie d'un groupement qui s'appelle Ecolomax, ça fait depuis... Je pense que depuis mon père a commencé à faire l'agriculture qui est avec ce groupement-là. En fait, c'est plusieurs agriculteurs qui ont un agronome à leur charge. Puis cet agronome-là, c'est sûr, vient faire les visites de champs pour voir que tout se passe bien. Et surtout, qui conseille des traitements potentiels, mais vraiment pas à la dernière seconde, mais avec un grand seuil de tolérance. Donc, c'est-à-dire
okay.
que on va traiter si vraiment on n'a pas le choix de le faire, là, pour pas perdre les cultures, mais qui, dans le fond, on a une utilisation vraiment minimale de tout ce qui est pesticide.
Ok, le plus raisonné possible, finalement.
Exactement.
Là, qui est pas,
ouais.
Dès qu'on voit un petit problème. La même chose que vous conseillez aux gens, finalement.
Exactement.
T'sais, vous
ouais.
dites qu'il faut être tolérant à une certaine quantité d'insectes.
Ouais.
La règle du jardinier paresseux, là, Larry Hodgson, c'est comme de se reculer de 15 pas, me semble. Puis si tu le vois plus, c'est correct.
Ouais, exactement. Ça fait quand même du sens. Bon, c'est sûr qu'à partir du moment quand c'est dans ton jardin, ton seuil de tolérance peut être encore un peu plus grand.
Oui.
Quand
c'est
ton gagne-pain,
ça va dans le même sens, de pas dès qu'on voit un problème
ouais.
à sortir l'artillerie
ouais.
lourde en partant, mais si on voit que nos revenus sont en péril, on comprend
ouais.
que c'est un autre.
Ouais, puis il faut faire
ouais.
confiance à la nature aussi, des fois.
C'est un peu dur, des fois, hein,
ouais.
de dire que tu vois l'insecte ravageur arriver, puis
ouais.
t'es là, allez, prédateur, vas-y, vas-y.
Ouais, oui, c'est ça, exactement, mais avec l'utilisation des bandes florales, c'est quand même ça, un des objectifs aussi, c'est de pouvoir créer un habitat, un petit écosystème où, justement, les bons insectes puis se reproduire, hiverner, puis mm-hmm. Rester là, puis qu'on puisse les attirer pour qu'ils jouent de notre bord, finalement. Ouais, là.
Je vais changer un peu de sujet, mais c'est pas un hasard. En fait, tu trouves à être dans notre épisode de l'Halloween, du jour de l'Halloween, Sarah, puis on t'a fait venir pour cet épisode-là particulièrement parce que à la ferme Bédard et Blouin, entre autres, vous faites pousser beaucoup de courges et de citrouilles qu'on peut aller cueillir, je le rappelle. Et puis, est-ce que, dans le fond, quelle quantité de courges vous produisez par année? Est-ce que t'as un chiffre, sais-tu? C'est-tu important comme
production? C'est difficile, c'est difficile à dire en quantité, même en nombre de livres. On en fait beaucoup. On en fait beaucoup, puis vraiment, la culture est très changeante d'une année à l'autre, parce que, par exemple, comme l'année passée, on a eu de la grêle. Ça a été un vrai épisode.
On allait cueillir des pommes dans la région, puis elles étaient toutes marquées par la grêle.
Mais tu sais, quand on parle de tolérance au niveau des insectes, j'aimerais apporter le point de la tolérance aussi aux légumes et aux fruits qui ne sont pas parfaits. On l'a vécu, nous, c'était... En fait, moi, je me rappelle pas d'avoir vécu un épisode de grêle comme celle de l'année passée. Puis c'est arrivé au moment où les plants de courge et de citrouille avaient peut-être 2 ou 3 feuilles. Il y en avait 2 qui étaient complètement déchiquetées. Et on a eu la chance qu'il y ait une petite feuille au cœur de la plante qui était encore là, que c'est elle qui a fait vivre le plant. Mais sinon, les plants étaient... Sinon, c'était foutu, là. On n'en aurait pas eu, là. Et puis, c'était aussi à la même période où les fraises commençaient, on ouvrait le tokiette, là. Donc, il y avait des fraises plein le champ. Ça les a poqués. Il y en a que ça les a fait pourrir, mais il y en a beaucoup qui ont seulement resté poqués, mais on voyait que c'était séché un peu, mais la fraise était absolument aussi délicieuse qu'avant. Mm-hmm. Mais on a vu la réaction des gens. Il y en a que ça leur dérangeait pas, mais la plupart, tu sais, on a eu des commentaires là même sur les médias sociaux, puis je trouve ça un peu aberrant aujourd'hui en 2018 qu'on soit pas capable de comprendre que ta fraise sera pas absolument parfaite comme celle de ton emballage qui vient de Californie, qui a été shootée aux pesticides et qui a été puis que là t'as des agriculteurs locaux qui font leur possible, mais qu'il y a une grêle qui leur est tombée sur la tête, puis ce qu'on vous propose, c'est pas des fruits qui sont immangeables, mais qui sont seulement un peu endommagés. C'est ça. Quand on parle de tolérance là, face aux insectes et face aux aliments qui nous sont proposés, même dans les épiceries, là, je pense que il y a une grande amélioration à faire de ce côté-là auprès des consommateurs pour éviter le gaspillage alimentaire, parce que on en a perdu énormément des fraises, là, c'est sûr et certain.
C'est dommage. Mais je pense que par là, tu sais, votre travail de sensibilisation, c'est aussi beaucoup ça. Quand les gens se mettent à jardiner, ils comprennent beaucoup mieux la réalité de ce que c'est que de produire de la bouffe, puis ils sont beaucoup plus, j'allais dire, compatissants, mais en tout cas, ils sont beaucoup plus compréhensifs, puis...
Tout à fait. Quand tu les produis, tes tomates, tes carottes, t'as mis l'effort, tu les as semées, t'as désherbé ton potager, tu l'as arrosé tout l'été, tu les as surveillés s'il y avait des insectes, tu les as regardés pour les chouchouter, puis là, c'est vient le temps de la récolte, de les manger, puis là, t'es oublié dans ton frigère, puis ils pourrissent. Je veux dire, tu fais, en tout cas, il y a moins de probabilité que tu fasses ça quand t'as tellement travaillé fort pour tes fruits, tes légumes. Fait que j'imagine qu'à quelque part, effectivement, peut-être que ça l'élève la conscience au niveau des agriculteurs.
J'imagine qu'aussi tu le vois, tu sais, quand tu cultives des carottes, mettons, puis tu les récoltes, là, tu vois qu'il y en a des croches, qui s'embrassent, des fourchus.
Oui.
Puis tu réalises que la carotte parfaite de l'épicerie est pas la norme nécessairement dans l'univers de la carotte. Puis c'est vrai pour beaucoup de fruits et légumes, finalement, que si vous avez déjà cueilli des pommes dans la vie, là, il y a comme la catégorie fantaisie qui est rouge à 75%, qui a tel format, puis toutes les autres qui sont déclassées, mais la catégorie fantaisie, c'est pas la majorité des pommes. Mm-hmm. Fait que c'est vrai qu'il faut embrasser l'imperfection. Acceptons-le.
Tout à fait.
La nôtre et celle de nos aliments.
Oui. Mais pour ce qui est
de sagesse, Marielle.
Qui aurait cru qu'il y aurait aussi de la philo dans le podcast?
Pour ce qui est de la quantité, en termes de livres ou d'unités, j'avoue que j'aurais de la misère à répondre. J'ai un peu plus de difficulté avec ça. Par contre, on fait facilement une trentaine de variétés, soit de courges comestibles, de citrouilles. Donc, en termes de choix, encore comme le le potager, là, on aime ça avoir beaucoup de variétés puis des choses nouvelles à proposer aussi aux gens parce que en fait, il y a pas juste la butternut puis la courge spaghetti. On est tombé un peu là-dedans comme dans une potion magique il y a quelques années là, on a commencé avec ça puis on a vu qu'en faisant des dégustations, les gens étaient intéressés à découvrir comment les cuisiner puis que c'est un légume fruit là, on va dire ça qui était un peu méconnu puis à la limite qui faisait quasiment peur parce que si je l'ai sur ma table, qu'est-ce que je ferais bien avec ça, comment je l'ouvre, comment je le fais cuire, les gens étaient vraiment là comme intimidés.
Comment les légumes plus de conservation, on dirait qu'on les aime moins, on a moins envie d'y manger.
On a tous été obligés de manger des potages plates on avait pour être traumatisés.
Ça doit être ça.
Mais pourtant, tu sais, la courge, il y en a qui se mangent crue, il y en a qui en frites, là, comment ça s'appelle, la courge arlequin en frites, oh mon Dieu.
Ah, c'est infini, honnêtement. Ça encore là, ben c'est un travail de sensibilisation et de découverte qu'on fait auprès de la clientèle en faisant les dégustations les fins de semaine. Ben on leur propose des recettes qu'ils peuvent faire à la maison. Donc on vend pas de produits transformés ou autres. On propose plutôt aux gens de cuisiner à la maison avec nos courges. Mais c'est tellement infini là ce qu'on peut faire avec les courges. On peut en mettre partout, autant dans les desserts, les pâtisseries, les risottos, de la pâte à pizza.
Il paraît que t'as une recette de biscuits à la courge qui est fantastique.
Oui, oui, ça fait la renommée là, depuis plusieurs années. Là. Les gens, même si c'est une dégustation, on soupçonne que des gens viennent en manger, même si ça fait 5 ans de suite qu'ils viennent, qu'ils goûtent. Ah oui, je vais goûter cette année, ouais, je vous reconnais, vous!
Alors, ouais, c'est une blague. Je vais venir une fois avec mes lunettes fumées, oui, une fois ça, avec ma moustache, une fois avec un chapeau.
Exactement.
Puis, c'est une recette secrète ou quand on va de la déguster, elle nous est révélée?
Pas du tout. Elle est sur notre site web. Puis, en fait, on s'est inspiré beaucoup, nous, d'une autre entreprise qui est vraiment très belle. Si vous allez vous promener dans le coin de Joliette, il y a la courgerie. Qui est vraiment une belle entreprise. Puis c'est eux, en fait, qui nous ont inspirés à faire... Okay. Comme on faisait déjà des citrouilles, c'était comme un peu la suite logique si on voulait...
Mais c'est ça, j'allais poser la question de par curiosité de pourquoi avoir choisi de produire en particulier des petits fruits puis des courges, comme d'où venait ce choix-là.
Honnêtement, les citrouilles, c'est pas moi qui les a commencé, c'est mes parents. C'est une bonne question, mais ça fait déjà plusieurs années qu'on reçoit des écoles, des garderies, puis c'était comme un moyen probablement de prolonger la saison, parce que c'est quand même c'est une entreprise saisonnière, on est ouvert 8 mois par année. Pour garder une bonne main d'œuvre aussi, on devait prolonger un peu notre saison d'activité. Noël a jamais été dans les plans non plus, donc ça faisait quand même, ça finissait bien la saison avec les citrouilles, et puis ça nous permettait justement aussi de recevoir des écoles, des garderies pour leur parler des courges et des citrouilles. Et puis, après ça, ben c'est ça, on est comme tombé en amour vraiment avec les courges et avec toutes les possibilités, surtout toutes les variétés là qu'il y a dans cette catégorie de légumes-là. Là, c'est assez infini. Là.
Puis là, aujourd'hui, l'épisode est diffusé. On est le 31 octobre, le jour de l'Halloween. Est-ce qu'il est trop tard? Parce que tout le monde a l'eau à la bouche en ce moment. Est-ce qu'on peut aller aux fermes Bédard-Blouin aujourd'hui acheter des courges?
On est encore ouvert, puis on en garde tant qu'il y en a.
C'est une bonne nouvelle, chers auditeurs.
Oui, c'est ça. Ça arrive qu'on reste ouvert quelques jours après, dépendant de quand tombe l'Halloween là dans la semaine. Bon, c'est sûr que l'idéal c'est de faire ses provisions avant, mais quand même le 31 est ouvert, il y a toujours des gens à la dernière minute, puis j'en fais partie, c'est bien correct. Donc on en garde tant qu'il y en a en fait là.
Okay, parfait.
Puis ce qui reste, on le donne à Moisson Québec en fait, parce que souvent les gens pose la question, qu'est-ce que vous faites avec tout ce qui reste? On voit plein de citrouilles dans le champ, puis on voit que ça préoccupe quand même beaucoup les gens parce qu'ils les voient. T'sais, les fraises qui restent dans le champ, quand ils passent sur le boulevard, ils les voient pas, mais les citrouilles, ils les voient. Donc, on a beaucoup de questions à ce sujet-là. Et puis, les courges, ben ont pas mal toutes été cueillies à l'avance parce qu'ils sont un peu moins résistantes que la citrouille au gel.
C'est ça.
Donc, on les cueille dans des bennes, puis on les garde dans les serres, puis ce qui reste, on l'envoie à Moisson Québec. Et puis, qui s'occupe, en fait, c'est plus simple pour nous de l'envoyer à Moisson Québec qui redistribue à des cuisines communautaires et organismes. Et puis, les citrouilles, ben il en reste une partie, oui, c'est vrai. Par contre, la majorité qui reste au champ sont déjà soit poquées ou endommagées, donc ils vont s'occuper de nourrir la faune, principalement les chevreuils. mais, tu sais, ils vont nourrir la faune, ils vont nourrir le sol aussi, parce qu'ils restent là, donc ils vont tout simplement faire de l'engrais. Alors, voilà.
Parfait, ben, super. Merci beaucoup, Sarah Bédard, de la ferme Bédard Blouin, d'être venue te prêter au jeu du mâche-patate. On vous remercie, on vous félicite aussi d'être des résistants du territoire agricole de notre ville, puis aussi de faire cette transition-là vers des pratiques plus écologiques. C'est vraiment génial. On vous souhaite encore des décennies et des décennies de... d'agriculture urbaine.
Oui, on se le souhaite, nous aussi, la troisième génération, parce que ça va faire partie encore plus de nos défis.
Oui.
Mon père le voyait venir, il l'a vu venir, là, nous, on va être dedans, probablement. Donc, nous et probablement nos enfants aussi, à qui on aimerait bien sûr pouvoir léguer cette entreprise-là. Donc, Dieu seul sait ce qui se produira pour la suite, mais on espère bien, c'est sûr, de pouvoir rester le plus longtemps possible.
Mais on vous le souhaite également. Merci beaucoup.
Oui, merci. Alors, maintenant, nous, on va se parler un petit peu de comment ne pas gaspiller sa citrouille d'Halloween, mais avant, on va écouter la capsule horticole avec Marie-André qui va nous parler de l'adaptation des plantes au froid.
L'automne survient toujours plus vite qu'on le souhaiterait et il arrive parfois qu'un gel hâtif survienne avant que nous ayons le temps de retirer toutes nos cultures du potager. Toutefois, certaines plantes ont la capacité de survivre aisément à ces gels. Qui sont-elles et surtout, comment fonctionnent-elles? D'emblée, la plupart des cultures de la famille des tomates et des courges ne survivront pas au gel. Je parle ici par exemple des poivrons, des aubergines, des tomates et des concombres. Pour ce qui est des fines herbes, la plus sensible de toutes est évidemment le basilic. La laitue, les pois et les pommes de terre pourront tolérer une petite gelée jusqu'à moins 2. Vous devrez toutefois récolter les pommes de terre suite à un gel, puisque le feuillage aura complètement été détruit, mais heureusement, les tubercules seront probablement encore intacts. Un peu plus résistants, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou pommé, le chou-fleur, la bétacarde, la moutarde, les oignons, les radis et le rapini survivront jusqu'à moins 3 ou moins 4 degrés. Finalement, les super résistantes. Elles s'accommoderont de geler jusqu'à moins 7 et peut-être même plus. On retrouve les verdures asiatiques, les betteraves, les carottes, le chou colard, l'ail, le kale, le chou rave, le poireau, la mâche, le navet, le rutabaga, les épinards et le panais. Vous n'aurez probablement pas eu le temps de noter tout ce que je viens de dire, mais retenez que les cultures de la famille des choux et la plupart des légumes racines sont reconnus comme résistants. Les plantes tolérantes au froid ont une adaptation unique qui aide leur tissu à répondre aux conditions de gel. Elles gèlent partiellement en déplaçant la majeure partie de l'eau à l'extérieur de la cellule végétale. C'est pourquoi ces plantes apparaissent flétries lors des gels, mais reviennent rapidement à la vie lorsqu'elles dégèlent. Elles accumulent aussi une protéine tolérante au froid et du sucre, ce qu'on appelle aussi l'antigel, qui permet d'abaisser le point de congélation à l'intérieur de leurs cellules et prévenir l'accumulation de cristaux de glace. Cette tolérance se forge tranquillement avec le refroidissement, donc une baisse drastique des températures peut malgré tout affecter des plantes qui sont considérées comme résistantes. Aussi, cette résistance peut varier selon certaines conditions de culture comme l'exposition au vent et l'irrigation. À l'inverse, une culture comme la tomate, qui ne possède pas cette adaptation, verra la pulpe de ses fruits tourner en bouillie après un gel, résultat des cellules gorgées d'eau qui auront pris de l'expansion, puis éclaté en passant de l'eau à la glace. Préparez-vous pour l'hiver!
Ah, moi, ça me fascine quand même l'adaptabilité des plantes, comme toute la nature, l'ingéniosité, c'est fou comment ça me fascine sans cesse. Aujourd'hui, donc, on est le 31 octobre, n'est-ce pas? C'est l'Halloween. Et puis, vous avez peut-être décoré avec des citrouilles. Et puis demain, ben, c'est plus utile si c'est de la décoration. C'est plate comme ça. D'ailleurs, il paraît que la citrouille, ce serait le légume qui est le plus gaspillé. Déjà qu'on sait que le gaspillage alimentaire, c'est un fléau. La citrouille est utilisée souvent que comme décoration. Puis ce serait 69% des citrouilles qui ne servent que de décoration. En tout cas, qui se ramassent directement à la poubelle sans être mangées. Donc, on voulait vous donner un petit peu des trucs quoi faire avec. Si jamais vous l'avez creuser si vous avez fait des sculptures dedans, peu importe. Vous regarderez quand même là, si ça fait longtemps, est-ce qu'elle est encore bonne. Si vous avez mis des chandelles dedans, peut-être enlever une petite couche aussi là où la fumée a pu s'accumuler, ou je sais pas, vous verrez comment vous vous sentez avec ça. Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a plein de manières de l'apprêter. Marie-Hélène, est-ce que tu as des recettes pour nous?
Ouais, ben c'est sûr, le classique parmi les classiques, c'est de virer notre citrouille en potage, mais c'est peut-être aussi une des façons les plus plates.
Ouais.
Moi, j'avoue que j'ai un fait pour le soufflé à la courge que mon amie Capucine m'a montré à faire il y a quelques années.
Ça a l'air bon.
Puis même s'il s'écrase, là, c'est bon pareil. Puis une autre façon d'utiliser sa citrouille que je trouve intéressante, c'est simplement en purée avec les patates là, tu sais, ça pimpe la purée de patates, les patates
comme des patates carottées mais avec de la citrouille. J'avais pas pensé à ça.
Puis toi, comment tu fais?
Ben moi, souvent je m'en fais de la purée avec des épices là, les traditionnelles épices qu'on met toujours dans de la citrouille là, cannelle, clou de girofle, etc. Puis je la congèle, je l'utilise après ça comme j'en fais des tartes, des fois j'en mets dans des smoothies, des choses comme ça. Il y en a qui en mettent dans leur latte là, mais ça fait un petit peu motonneux quand même, mais bon. faut passer outre la texture.
Elle est honnête.
Sinon, j'ai jamais essayé, je l'avoue, mais j'ai vu que c'était possible de faire des sorbets de citrouille, donc quand même, ça m'intéresse. Puis, il y a aussi des chutneys qui peuvent être faites, plein de sortes de sauces. Je veux dire, c'est versatile. Puis, j'ai une recette que je fais souvent, moi, avec la courge butternut, mais qui pourrait être très bonne avec la citrouille aussi, qui sont des cannellonis. C'est un peu long, j'avoue, là, à remplir les pâtes des cannellonis, faut de la patience.
Je pense que j'ai pas fait de cannellonis depuis que j'ai un enfant.
Ah, ça fait très bien. <jamais. rire> mais c'est super bon avec des courges butternut, je vois pas pourquoi ça serait moins bon avec de la citrouille, donc voilà, une voix. Puis si ça vous tente pas de la manger, ou pour une raison ou une autre, elle est plus propre à la consommation, j'ai trouvé une recette de savon faite à base de citrouille sur le blog Les Trappeuses. Et puis, c'est sûr qu'il faut savoir déjà, faut avoir fait un peu de savon, là, faut pas le faire ça n'importe comment à la maison, mais si vous vous sentez prêt, il y a du savon à la citrouille qui peut être fait.
Étrange. Je sais pas ce que j'en pense. Alors, ben merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode 5 du Mâche-Patate. Sur la page de l'épisode sur notre site web, on va mettre le lien vers le reportage de la semaine verte qui était mentionné par Sarah au courant de l'entrevue. Également, le lien vers la page des recettes de la ferme Bédard-Boulouin où on trouve la fameuse recette de biscuits à la courge qui a également été évoquée pendant l'entrevue. Donc, si vous avez aimé le Mâche-Patate que vous venez d'écouter, donnez-nous un paquet d'étoiles sur iTunes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à nous diffuser sur vos médias sociaux favoris. Ça nous aide beaucoup à accomplir notre mission qui est de faire la promotion de cette pratique toujours plus extraordinaire qui est l'agriculture urbaine. Merci beaucoup, puis on se retrouve dans 2 semaines pour l'épisode 6.
Bye bye, puis joyeux Halloween!
Oui, joyeux Halloween!
Merci d'avoir écouté le Mâche-Patate. Je suis Marie-Andrée Asselin, horticultrice, formatrice et conférencière aux urbainculteurs. L'épisode que vous venez d'écouter a été animé par Marie-Hélène Dubé et Marie-Hélène Jacques. À la technique et au montage, Dominique Mani. La capsule horticole est préparée et animée par moi-même, Marie-Andrée Asselin. Merci et à bientôt!